quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce, y avait dans le temps un bon grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de lèpre toute neuve. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, vous êtes bien dans l'émission Les Mangeterres, une émission consacrée tous les mois à l'écologie et aux aspects évidemment sociaux également et revendicatifs. Donc cette émission vous propose un tour d'horizon de l'actualité avec bien aujourd'hui, autant le dire, deux pages principales, celle encore et toujours de l'agriculture. Et également une page énergie assez chargée. Alors, on va tout de suite commencer en introduction par quand même une considération, on va dire, économique. Il est important de le rappeler sur notre antenne. Alors, c'est pas une annonce pour soutenir la radio. Et bien, du coup, si, je vais quand même le faire. Donc, vous pouvez soutenir Radio Libertaire, bien sûr, qui ne vit pas de publicité, mais qui vit en partie du soutien de ses auditeurs et auditrices en activant eh bien, une souscription, alors par voie bancaire principalement. Vous trouvez toutes les informations sur le site de la radio. Et l'information économique par laquelle je souhaitais commencer l'émission, eh bien, c'est avec la revue Reporter, qui reprend une note de Bercy, qui nous cite également le journal Le Monde, qui l'a consulté, et qui nous dit que le taux d'impôt net payé par les 10% les plus riches a reculé de 0,1% en 2024, alors que leur revenu fiscal de référence a augmenté de 2,3%. Alors, le fait de bénéficier de divers avantages fiscaux, par exemple pour l'emploi d'un salarié à domicile, permet à leur taux d'imposition réel de passer de 17,5% à 15,2%. Les ultra-riches s'en sortent encore mieux. De moins en moins d'entre eux sont frappés par le taux marginal d'imposition le plus élevé à 45%. Donc on sait, les impôts sur le revenu, c'est cinq taux d'imposition correspondant à des tranches de revenus. Et le nombre de foyers assujettis au taux maximal marginal d'imposition a reculé de 9% en 2024 et de 13% depuis 2018. Au total, seuls 61 000 contribuables sont désormais concernés par ce taux de 45%. Donc, encore une fois, sur une tranche élevée, j'ai pas les chiffres en tête, mais des revenus. On a affaire ici à des indépendants, des professions libérales ou encore des dirigeants d'entreprise qui peuvent en partie piloter leur mode de rémunération en fonction du régime fiscal le plus favorable, analyse auprès du Monde l'inspectrice des affaires sociales Farida Belkir. En parallèle, l'impôt net payé en moyenne par les 40% de foyers situés au milieu de la courbe des revenus a progressé à un rythme annuel compris entre 5 et 10%. Donc on voit à travers cette information courte et reprise par le site Reporter, on voit que, évidemment, bien ce gouvernement, cette fiscalité favorise les plus riches, bien sûr, et il ne fallait certainement pas en douter, mais avec des chiffres à l'appui, c'est plus convaincant. Voilà. Alors, sur la page agriculture, je crois qu'on va la couper en deux parce que l'information est dense et difficile et complexe à digérer. D'abord, avec Génération Future et son communiqué du 30 avril sur cette fameuse loi Laurent Duplon. Parce qu'en effet, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale envisage d'inscrire définitivement la proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée, qui pourrait discuter en séance publique à la fin de ce mois, donc du 26 au 28 mai, avec un passage auparavant en commission du développement durable. Donc ça, on l'a entendu sur diverses antennes à partir de demain, donc le 6 mai, compétente au fond sur les articles 5 et 6 et également entendu en commission des affaires économiques à partir du 13 mai, compétente sur le reste du texte. La proposition de loi prévoit de revenir sur l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes, dits tueurs d'abeilles, à plusieurs conditions. Elle envisage également que les travaux de l'ANSES soient priorisés sur la base d'une liste d'usages prioritaires qui ne prend en compte dans sa définition que l'impact sur le potentiel de production et l'absence d'alternatives. Hein, on le voit donc, pas de considération environnementale. Et ainsi, les substances dangereuses pour la santé et l'environnement seront reléguées au second plan et examinées ultérieurement. De plus, elle renforce la position des industriels dans le processus d'autorisation de mise sur le marché des produits pesticides en leur permettant de produire des observations écrites préalablement à une décision de rejet, alors que les décisions d'autorisation des pesticides en Europe prennent déjà très peu en considération la littérature académique. Pour rappel, les néonicotinoïdes sont une famille d'insecticides ayant un mode d'action similaire. Ils agissent sur le système nerveux central des insectes en se liant sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine et provoquent la paralysie et la mort. Les néonicotinoïdes ont fait l'objet d'une interdiction successive au niveau européen au fur et à mesure du développement des connaissances scientifiques, en raison notamment de leur impact sur les abeilles. Seules les substances acétamipride, sulfoxaflor et flupyradifurone restent autorisées en Europe à ce jour. Dans une décision salutaire pour notre santé, celle des agriculteurs et des écosystèmes, la France avait décidé en 2016 puis en 2018 d'interdire l'ensemble de ces substances. L'ensemble des données scientifiques actuellement disponibles justifie cette décision. En effet, un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, EFSA de 2024, indique que les effets de l'acétamipride sur la santé humaine représentent une préoccupation en matière de neurotoxicité développementale. Déjà en 2022, l'autorité demandait d'évaluer le potentiel perturbateur endocrinien de cette substance. Ces effets sont également bien documentés dans la littérature académique. Afin d'en avoir une meilleure compréhension, la Commission a demandé à l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, de procéder à la réévaluation de cette substance. Concernant le flupyradifurone, là encore, malgré les alertes, le potentiel perturbateur endocrinien n'a jamais été évalué selon le document guide disponible pourtant depuis 2018. Enfin, des produits à base de sulfoxaflore ont fait l'objet d'une récente décision de justice en raison de l'absence d'évaluation précise et concrète des impacts, notamment à long terme, sur les abeilles. Malgré les preuves apportées par la science académique, le gouvernement envisage bel et bien de lever l'interdiction sur ces substances. À propos de l'ANSES, son comité de déontologie visant à prévenir les conflits d'intérêts a alerté sur les risques de cette proposition de loi dans un avis du 10 avril. Cet avis vient s'ajouter à celui de la Conférence nationale santé qui met en garde contre une remise en cause de l'indépendance de l'expertise scientifique. Voilà, une actualité où encore une fois l'économie prime sur les considérations environnementales. Il est toujours temps de pleurer et de pleurer sur les petits oiseaux, déplorer les pollutions diverses. Et Fermine, de dire que des têtes devront tomber, c'est l'économie qui reprend ses droits et ses intérêts sont, l'économie capitaliste, ses intérêts sont bien représentés au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement, bien sûr. Alors, autre article... je vais peut-être parce que c'est vraiment dense. Allez, un petit article court publié dans Reporter du 29 avril qui nous dit que que 4 Français sur 5 ne mangent pas assez de fruits et de légumes. Le constat est pourtant connu, une alimentation saine permet d'éviter le diabète de type 2, les cancers et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2003 de consommer 5 fruits et légumes par jour. Pourtant, seulement 24% des femmes et 18% des hommes suivent ce conseil en matière de fruits et légumes, pointe le baromètre de Santé publique France publié le 29 avril. L'apport insuffisant de fruits et légumes causerait 14% de la mortalité par cancer gastro-intestinaux, 11% de mortalité par maladie ischémique et 9% par accident cardiovasculaire, observe l'enquête. Pour atteindre l'équilibre alimentaire, le programme national Nutrition Santé préconise de consommer un plat de féculents complet chaque jour, des légumes secs deux fois par semaine et un verre maximum de boissons sucrées quotidiennement. Et bien sûr, 5 fruits et légumes par jour. Et puis alors cet article de fond issu, alors qui est un peu long mais qui expose bien la problématique, intitulé donc la reprise des fermes agricoles, l'immense problématique nationale. Article du 9 avril publié donc sur le site La Relève et la Peste, qui est rédigé par Pierre Delorme, qui travaille sur la résilience alimentaire et énergétique et cultive 15 hectares de terre en Dordogne selon les principes de l'agroécologie. Il participe à la résilience alimentaire des territoires en formant des élus sur le sujet et livre donc une tribune, dans une tribune, les difficultés auxquelles sont confrontés les néo-ruraux lorsqu'ils s'installent en agriculture. Actuellement, donc, 50% des agriculteurs français ont plus de 55 ans, ce qui veut dire qu'en moins de 10 ans, la moitié des exploitations françaises vont changer de main pour cause de départ à la retraite. En soi, ce chiffre est déjà colossal et donc la situation est très particulière. Mais les facteurs aggravent cette problématique au point qu'elle soit, selon l'auteur, donc Pierre Delorme, critique. L'alerte semble gagner les instances du métier. Les chambres d'agriculture, les directions départementales de la SAFER semblent s'inquiéter aussi et tentent de trouver des solutions. Aujourd'hui, près des trois quarts des personnes qui suivent une formation agricole sont hors cadre familial. Ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole qui décident de devenir agriculteurs. Il y a 10 ans, la situation était l'exact opposé. Cette répartition se retrouve pour les installations actuelles. 3 personnes sur 4 ne sont pas issues du monde agricole. On les appelle des NIMA, NIMA, non issus du milieu agricole. Que des hors-cadres familiales reprennent massivement des exploitations agricoles touche à plusieurs fondamentaux. D'abord, les nouveaux agriculteurs ne bénéficieront pas d'une aide familiale où celle-ci sera difficile, voire impossible, à mettre en place. Cette aide a de multiples facettes, tout aussi importantes les unes que les autres. Cette aide familiale permet de commencer la formation avant leur installation, pendant leur installation, puis au cours de l'activité agricole en elle-même. Bénéficier d'une ressource de savoir disponible qui a une parfaite connaissance du métier, du terrain, de la météo et de ce qui compose l'activité, cela vaut de l'or. Même si les méthodes sont différentes, les objectifs révisés, ce savoir empirique est un capital très très précieux. Ensuite, il y a la capacité de travail de la famille. Au moment des pics d'activité, pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée est une aubaine qui peut changer radicalement les résultats. Faire les foins avant la pluie, ramasser une récolte au bon moment pour avoir une production de qualité, etc. Reprendre le flambeau d'une activité agricole au sein d'une même famille minimise le risque de non-adhésion au projet. Le cercle familial et amical n'est pas toujours compréhensif face au choix de personnes qui décident d'aller vers un métier que l'on sait pénible, usant, peu payé et avec des risques financiers, pour ne citer que, importants. Connaître un fournisseur, des collègues, une source, le ou la mère, un banquier, comment et pourquoi tel bâtiment a été construit ici et par qui, autant d'informations, de relations qui peuvent très vite manquer dans une installation et une exploitation. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des ressources très utiles en cas de problème ou d'événements imprévus. Enfin, et ce n'est pas un détail, ce soutien familial peut permettre aux repreneurs de s'abstenter pour des formations, des obligations administratives, pour prendre quelques vacances. Qui de mieux que les personnes qui ont précédé ? La question de l'enfermement à l'outil de production est un point dur dans la vie des agriculteurs et agricultrices. Pour les NIMA, donc non issus du milieu agricole, les arrangements financiers et administratifs sont beaucoup plus compliqués. Dans un cadre familial, une partie ou la totalité de l'exploitation peut être transmise sans une coupure nette. Par exemple, en faisant une association le temps de la passation, en laissant courir certains crédits contractés avant d'opter pour une donation partielle ou complète. Lorsqu'on est dans un hors-cadre familial, ces arrangements basés sur la confiance et un historique relationnel sont quasiment impossibles. Les fils et filles d'agriculteurs connaissent dès leur plus jeune âge l'exigence du métier. Ils n'ont pas le même rapport à la météo, à la force physique, aux engins, aux animaux. Ils sont issus d'un milieu où les codes sont omniprésents. Les exemples côtoyés et intégrés depuis des années. Ils connaissent le métier de l'intérieur. À l'inverse, les hors-cadres familiaux découvrent le métier et toute la vie qui va avec. Ils ne sont pas toujours rodés à l'effort ou aux imprévus. Les descendants d'agriculteurs sont dans une continuité culturelle, un héritage familial, social, fait aussi de tradition. Les néo-ruraux sont mus par des convictions, or force est de constater que cela peut faire une énorme différence sur le long terme. Les néo-ruraux ne sont souvent pas assez préparés physiquement et psychologiquement. De plus, ils arrivent certes motivés, mais parfois fragilisés par une vie d'avant. La combinaison des deux rend leur installation précaire, les chiffres en attestent. D'une manière générale, le monde est beaucoup plus instable qu'il ne l'était il y a 50 ans. L'agriculture au sens large est un thermomètre aux avant-postes des changements climatiques et géopolitiques. L'augmentation du prix de l'énergie a fait basculer dans le rouge des exploitations qui étaient rentables jusqu'à présent. Au moment de l'écriture de ce billet, l'inertie due au cycle financier d'une exploitation ne permet pas d'en mesurer toutes les conséquences. Sur la fin 2022, avec l'augmentation des prix de l'énergie, les boulangers ont tout de suite été confrontés au problème avec la fermeture rapide d'une quantité d'établissements. Les exploitations agricoles ont des cycles financiers sur 1 ou 2 ans, ce qui rallonge le délai de compréhension de la situation. Le marché du bio s'est totalement effondré. En 2023, la part de marché des produits bio dans les achats alimentaires a baissé à 5,6%, revenant à des niveaux d'avant 2019. Tous les jours, les agriculteurs font le choix de se déconventionner du label bio en espérant sauver leur exploitation. Or, l'abandon n'est pas fait de gaieté de cœur. Le coût d'une labellisation sur un plan financier ainsi qu'en charge de travail est imposant. Certaines filières sont totalement bouchées. Les chambres d'agriculture essayent d'empêcher les reprises de filières sinistrées pour éviter les catastrophes financières et sociales pour les repreneurs. Ce qui crée des drames puisque les exploitants actuels ne trouvent pas de successeurs. Ces exploitations sont condamnées à mourir. La mutation d'activité n'est pas sans problème, à commencer par le foncier. Car les infrastructures ne correspondent pas aux nouveaux projets agricoles. Or, à cause des normes combinées avec la spécialisation des activités agricoles, la transformation d'une ferme est compliquée, lourde et coûteuse. Le changement climatique, les réglementations qui évoluent et pas forcément dans le bon sens, l'opinion des consommateurs avec lesquels il faut composer, ces facteurs ont un impact fort, direct et indirect sur l'agriculture. La chute de la biodiversité, des insectes pollinisateurs, l'arrivée de plantes, de maladies, d'insectes invasifs sont des problématiques cornélienne pour l'agriculture. Les conséquences sont abyssales. L'agriculteur ne peut plus compter sur son seul savoir historique. Toutes les cartes sont rebattues et il est quasiment seul pour y faire face. Seul et devant construire un avenir commun, la tâche est d'une complexité folle. Les agriculteurs et agricultrices sont l'une des professions les plus touchées par les suicides. Pour l'instant, la proportion d'agriculteurs qui sont hors cadre familiaux ne représente pas la masse. Mais il semblerait qu'il soit tout autant touché par le phénomène des suicides selon la source de la mutualité sociale agricole. Les dettes contractées, la pénibilité du métier et l'isolement seraient les facteurs principaux du malaise des agriculteurs. Les agriculteurs sont considérés comme étant les principaux vecteurs des problèmes environnementaux, ce qui est un fait pour les agriculteurs industriels. Par contre, leurs motivations ne sont pas toutes mercantiles, surtout... Beaucoup d'agriculteurs sont maintenant dans l'impasse, ne sachant plus comment et quoi faire pour revenir à des pratiques plus vertueuses. Leur disgrâce sociale, couplée à la crise économique favorisant de plus en plus les consommateurs à se tourner vers des produits moins chers, maintient et favorise ce clivage. Les problèmes internes, couplés aux problèmes externes, pèsent sur les agriculteurs. Les repreneurs partent avec un handicap concret, ce qui les pousse à faire autrement que les agriculteurs en place. Cela a pour effet de nourrir des espoirs et des croyances sur des techniques nouvelles, certes vertueuses, mais qui ne donnent pas les résultats mirobolants que les légendes urbaines ont fait naître et entretiennent. Par exemple, la permaculture, qui à l'échelle d'un jardinier donne des résultats qu'un professionnel ne peut pas atteindre, en tout cas dans des délais raisonnables. De plus en plus d'exemples d'espoir déçu accréditent ce constat qui était prévisible. Oui, l'agriculture a beaucoup progressé. Oui, elle a besoin d'être vertueuse, de respecter la nature dont elle est la partie maîtrisée. Mais ce qui fonctionne à une petite échelle ne fonctionne pas systématiquement à une plus grande. Le prix de vente à l'hectare est devenu majoritairement trop important. Les agriculteurs vendeurs calculent le prix de vente de leurs biens au prix de leurs dettes. Ils font la somme des crédits restant dus au moment de l'arrêt de leur activité, divisent le montant de cette dette par le nombre d'hectares possédés et obtiennent ainsi un prix minimum de vente à l'hectare. Leur objectif, compréhensible, est de partir à la retraite sans avoir encore à payer pour l'outil qu'ils n'exploitent plus. Dans la très grande majorité des cas, cela engendre une inflation du prix des exploitations qui sont au-delà des prix moyens pratiqués à l'hectare. Il est difficile de donner une surface moyenne des fermes en France car il y a de très grandes disparités d'une région à l'autre, corrélées au type d'activité. De leur côté, les hors-cadres familiaux, ainsi qu'une partie des personnes dans le cadre familial, portent des projets avec en moyenne des surfaces de l'ordre de 10 hectares, parfois moins. Or, les exploitations à vendre sont souvent beaucoup plus grandes. Selon les territoires, ça varie d'un facteur de 4 à 10. Pour une surface donnée, ce n'est pas une famille qui est présente, mais entre 4 et 10. Cela pose immédiatement des problèmes de logement et d'infrastructure. La SAFER se voit alors dans l'obligation d'accepter des démembrements de fermes pour permettre à des agriculteurs de s'installer. Cette nouvelle population a des effets positifs en territoires ruraux. On note ainsi que ça participe au retour de familles dans les campagnes avec tout ce que ça entraîne, étant donné que cette nouvelle population est plus jeune, avec potentiellement des enfants, les écoles qui réouvrent, les commerces, etc. Une redynamisation des campagnes qui peut aussi entraîner son lot de problématiques de cohabitation. Du fait de tous les changements effectifs, comme l'économie, le changement d'orientation des consommateurs, les repreneurs se lancent vers d'autres activités. Nombreuses sont les exploitations, plutôt mono-activités, qui, lorsqu'elles sont redécoupées, proposent sur les mêmes surfaces un spectre plus large d'activités agricoles. En soi, c'est une très bonne chose pour la résilience alimentaire locale. Cependant, leur modèle économique est alors à créer ex nihilo, sans garantie ni vision pérenne. La Confédération paysanne de Dordogne estime que sur 7 exploitations maraîchères nouvelles, 5 ont fermé 2 à 3 ans après leur lancement. Ça représente plus de 70% d'échecs en moins de 3 ans. Les conséquences directes sont lourdes. Toutes les dotations sont perdues, ce qui représente une perte sèche pour l'État et donc pour les candidats suivants. Les porteurs de projets sont satellisés avec une double fracture sociale. La première, lorsqu'ils ont quitté leur métier, et bien souvent la ville, pour s'installer à la campagne afin d'exercer un nouveau métier. Ça leur impose de devoir aller ailleurs, mais où et dans quelles conditions ? Depuis plus de 5 ans, les centres de formation agricole, CFA, doivent se battre pour faire entendre raison à leurs élèves. En effet, les filières maraîchage ont vu débarquer une quantité folle de porteurs de projets qui voulaient recopier le modèle économique de fermes médiatisées comme celle du Bec et Loin. Pour les CFA et les chambres d'agriculture, ce modèle n'est pas réplicable à grande échelle. Les CFA voient seulement un diplômé sur deux travailler dans l'agriculture et seulement une personne sur quatre s'installer. Les centres de formation agricole enregistrent des taux records de néo-ruraux qui suivent leur formation. Ces chiffres dépassent les 75% et peuvent même atteindre 90% dans certaines filières. Ces CFA font un travail formidable de mise en garde des projets d'installation fantaisistes qui pullulent. Ils forment les porteurs de projets, les guident pour essayer de les amener vers des projets viables. Ce n'est pas simple et visiblement pas suffisant puisque les personnes qui sortent de ces centres se plantent magistralement en grande majorité dans certaines filières. En conclusion, les centres de formation agricole n'ont matériellement pas le temps de former leurs élèves à un autre système de référence, de leur transmettre une partie de la culture rurale nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'inversion de la proportion des néo-ruraux versus les cadres familiaux a été si rapide que les centres de formation n'ont pas pu trouver une solution adaptée. Avec le temps dont ils disposent, ils ne peuvent pas transmettre une culture sociale en un an. Ça suppose de revisiter complètement le système de formation avec en amont un travail sur l'apprentissage de culture sociale. Le compagnonnage semble une solution possible et répond à tous les critères, sauf peut-être à ceux des porteurs de projets qui sont pressés de s'installer. Voilà. Un tour d'horizon large et assez complet, donc je le redis, tiré du site La Relève et la Peste, un article qui a été rédigé sous forme de tribune par Pierre Delorme, qui aborde eh bien, cette problématique, cette accélération sur la transmission et le renouvellement des agriculteurs et agricultrices, et toutes ses conséquences, et nous allons en reparler. Réévoquer ce sujet juste après une pause musicale bien méritée. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre, et on se retrouve juste après une respiration musicale. Thank you. Voilà, donc c'était Duke Ellington, Cotton Tail sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre, qui reprend son cours avec toujours dans la page Agriculture un autre article intéressant du site The Conversation du 16 avril intitulé « L'Île-de-France pourrait-elle être autonome sur le plan alimentaire ?» En effet, seulement 2% des produits alimentaires consommés en Île-de-France sont locaux. Une réalité qui interpelle quand on sait que la région est par ailleurs une terre agricole qui exporte par exemple ses céréales. Pourrait-on dès lors remédier à cette situation ? L'Île-de-France, région la plus riche du pays, concentre 30% du PIB, donc la riche au sens économique, monétaire, hein. On n'est pas fanat du PIB dans cette émission, on est justement pour la décroissance. Je ferme la parenthèse. Donc l'Île-de-France concentre 30% du PIB et une forte proportion de diplômés tout en jouissant d'une réputation internationale. Cependant, elle est presque totalement dépendante de l'extérieur pour son alimentation, avec seulement 2% des produits alimentaires provenant de la région, selon une étude de 2017. Et avec également seulement une petite semaine d'autonomie en cas de crise. Ces chiffres posent à la fois des questions de sécurité, de souveraineté, d'autosuffisance et interrogent l'ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation. Commençons par un paradoxe. En Île-de-France, la production de céréales est très excédentaire par rapport aux besoins régionaux. Plus de 3 millions de tonnes de blé en 2019, selon France Agrimaire, qui, transformée en farine, représente plus du double de la consommation de farine des 12 millions de franciliens. Pourtant, le bassin de consommation importe de la farine car une forte proportion de ce blé est exportée à quasiment 80%. Une étude précise le détail des 1,6 million de tonnes de nourriture venant de province qui entrent en Île-de-France chaque année. Ce sont principalement des fruits et légumes, de l'épicerie, des boissons sans alcool et des produits laitiers. Elle nous permet également d'apprendre que les produits animaux, eux, ne satisfont qu'à peine 2% de la consommation et que la production de fruits et légumes correspond à moins de 10% de la consommation régionale. Pourtant, la région Île-de-France était maraîchère au moins jusqu'au début du XXe siècle. En 1895, l'Île-de-France était autonome à près de 95% en fruits et légumes, et en 1960, on comptait encore plus de 20 000 hectares de légumes diversifiés dans la région, contre seulement 2 000 aujourd'hui. Sur la partie la plus urbanisée, seuls 0,6% des aliments consommés sont produits aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris, qui inclut Paris et 130 communes environnantes, et au moins 30% des aliments consommés à Paris proviennent de l'international. Ce constat, une fois posé, est-il envisageable aujourd'hui d'améliorer l'autonomie alimentaire de la région ? L'agriculture urbaine est parfois présentée comme un moyen de conquérir de nouveaux terrains productifs en ville pour produire localement, en particulier des fruits et légumes. Cependant, les travaux de l'agroécologue Baptiste Grard montrent qu'en mettant en production la totalité des 80 hectares de toits cultivables à Paris, on fournirait au maximum 10% des fruits et légumes consommés par les Parisiens. De plus, l'importance de ces toits et autres contraintes peuvent limiter la surface réellement cultivable. Malgré un soutien fort de la mairie, la surface en production intramuros n'est passée que de 11 hectares en 2014 à 31 en 2020. Pour rendre l'Île-de-France plus autonome sur le plan alimentaire, il faudrait donc encourager les collectivités à utiliser davantage d'aliments issus de l'agriculture périurbaine. Celle-ci paraît particulièrement bien indiquée pour alimenter la restauration collective, notamment publique. Les écoles, les crèches, les collèges, les lycées, les hôpitaux publics, les EHPAD, les prisons. Qui représentent en Île-de-France près de 650 millions de repas annuels servis, dont plus de la moitié en secteur scolaire. Elle constitue donc une source majeure d'influence sur l'alimentation des habitants et peut devenir un levier pour l'évolution de l'agriculture de proximité vers des formes plus durables, encouragées en cela par la loi Egalim. Le périurbain francilien, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise et dans l'Essonne,
participent de plus en plus à cette dynamique. On voit en effet croître le nombre d'exploitations diversifiant leur production vers des légumineuses et légumes de plein champ à destination de la restauration collective, notamment en production biologique, avec l'influence notable de la COP Bio d'Île-de-France, qui a été créée en 2014. Il s'agit pour l'essentiel de céréaliers diversifiés ou de maraîchers d'assez grande taille, au moins une dizaine d'hectares, sur des espèces spécifiques, les salades, les carottes, les pommes de terre, etc. Les plus petites exploitations maraîchères de moins de 5 hectares, très diversifiées en légumes, dont beaucoup se sont installées ces 10 dernières années avec un fort soutien des collectivités locales, sont moins orientées vers ce débouché, parce qu'il exige d'importants volumes à un prix relativement bas et induit beaucoup de contraintes de référencement pour les producteurs, d'où l'intérêt de formes mutualisées de commercialisation. C'est ainsi que certaines collectivités préfèrent passer directement en régie agricole pour leur restauration collective, à l'image de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, dans la région PACA, ou de Moissy-Cramaliel en Seine-et-Marne, ou Villejuif dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. La régie agricole est une ferme municipale dont le foncier appartient à la ville et dont le personnel est salarié municipal. Ce rôle structurant de la restauration collective a permis en 2023 de lancer l'association Agri Paris Seine, élargissant la notion de local à 250 km autour de Paris et visant à structurer des filières d'agriculture durable par l'achat public en parcourant la Seine du Havre jusqu'au nord de Lyon, le fleuve servant de voie majeure d'approvisionnement à terme. Dans le même temps, le schéma directeur de la région d'Île-de-France envisage d'autres logiques avec un projet de ceinture maraîchère autour de Paris. Soutenant à travers la restauration collective l'agriculture francilienne, les collectivités espèrent ainsi lutter avec elles contre le fléau de la précarité alimentaire qui s'est accrue ces dernières années. L'Agence Nouvelle des Solidarités Actives la chiffre aujourd'hui dans une fourchette de 12 à 20% de la population, avec de fortes disparités intra-régionales sur le nombre d'habitants touchés et l'intensité de cette précarité qui va de pair avec une forte prévalence des maladies de la nutrition, le diabète, l'obésité notamment. L'agriculture urbaine, intra et périurbaine, peut-elle jouer des rôles intéressants pour mieux alimenter les personnes en précarité? Les jardins collectifs, donc jardins familiaux partagés au bas d'immeubles, plus de 1300 en Île-de-France en 2019, y contribuent directement par une autre production alimentaire variable, mais qui peut être non négligeable selon la taille des jardins et l'implication des jardiniers. Elle pouvait représenter en 2019, en jardins familiaux, plus de 1500 euros d'économie par an sur les achats de fruits et légumes d'une famille, et probablement plus aujourd'hui étant donné l'inflation. Avec l'augmentation de la pauvreté et la demande accrue de jardins collectifs depuis le Covid, il serait nécessaire de mener une étude sur les rôles quantitatifs et économiques dans les territoires franciliens des diverses formes de jardinage collectif. En périurbain, les jardins d'insertion, dont ceux du réseau Cocagne, revendiquent plus de 140 000 paniers solidaires par an au niveau national. En Essonne, les jardins du Limon fournissent, eux, 550 paniers solidaires par semaine. Le réseau des AMAP d'Île-de-France, qui était 290 en 2023, propose aussi depuis 2021 des paniers solidaires ou des livraisons de surplus à des épiceries ou restaurants solidaires. Forme de solidarité éthique de base, cette fourniture reste cependant très confidentielle sur le plan quantitatif. De plus, la production d'aliments n'est pas tout. Il faut pouvoir et savoir cuisiner les produits, ce qui n'est pas toujours possible par absence d'équipement lorsqu'on vit en hôtel social, en hébergement d'urgence ou dans d'autres logements précaires. C'est pour faciliter l'intégration de ces produits frais dans l'alimentation de publics en difficulté que des structures associatives combinent jardinage et transformation alimentaire. À l'instar de la dynamique observée partout en France, se mettent en place en Île-de-France des initiatives pour favoriser l'accessibilité à des produits de qualité pour toutes, s'appuyant sur des principes de démocratie alimentaire, en expérimentant des caisses alimentaires locales, des transferts monétaires fléchés vers les produits durables, des comités locaux pour l'alimentation et la santé, etc. C'est un enjeu sérieux que de structurer l'analyse des retours d'expérience en tirés, car de cela dépend la capacité de diffuser des modèles alternatifs proposés pour transformer le système alimentaire de façon pérenne. Le projet Territoire Zéro Précarité Alimentaire, proposé donc par un labo d'études, ESS, mené par le réseau agriculture urbaine et précarité alimentaire de la chaîne agriculture urbaine donc l'OPA, vise précisément à évaluer les impacts de plusieurs de ces initiatives sur la sécurité alimentaire durable dans les territoires concernés. Il reste capital de pouvoir mieux évaluer scientifiquement, du point de vue de la lutte contre la précarité alimentaire, ces diverses initiatives des AMAP aux régies agricoles, ce à quoi travaille la chaire Agriculture urbaine d'AgroParisTech. En Île-de-France, l'autonomie alimentaire reste faible en raison des orientations actuelles des systèmes de production et des marchés. Devenir plus autonome implique non seulement une production locale accrue, mais aussi la transformation et la distribution régionale des produits. La restauration collective et la lutte contre la précarité alimentaire sont deux leviers essentiels, souvent imbriqués ensemble. Les collectivités signalent souvent que la restauration collective scolaire représente déjà une forme de lutte contre la précarité alimentaire des enfants, si toutefois les cantines scolaires sont bien accessibles à tous. Ces deux sujets sont impactés par les politiques publiques et souvent limités par un manque de coordination et de moyens. Un meilleur soutien financier et une évaluation rigoureuse des initiatives locales pourraient inspirer des politiques publiques plus efficaces et durables. Là, la recherche en lien étroit avec les acteurs politiques et de terrain est fortement convoquée. Il va sans dire qu'elle aussi manque aujourd'hui de moyens pour cela. Voilà, une réflexion utile, intéressante sur l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France. Il est vrai que on le dit souvent, on l'oublie souvent, l'Île-de-France très urbanisée, mais quasiment la moitié de la surface de l'Île-de-France est une surface agricole, hein, ce qu'évoquait l'article. Dans ses débuts, simplement, on n'est pas, il faut changer de système économique, hein, celui théoriser le système libéral, les avantages comparatifs, on produit là où c'est le moins cher de produire et bien l'environnement c'est un terrain de jeu, on fait voyager la marchandise. Là on est dans une autre logique, hein, dans une logique de rapprocher la consommation du lieu de production et on n'est plus dans une logique de marché libéral et effectivement c'est un enjeu et c'est le seul moyen de répondre aux contraintes environnementales en matière d'agriculture. Alors voilà, puisqu'on a évoqué assez longuement le sujet, je vais basculer sur l'énergie et le climat avec un premier article, mais dont je vais vous faire part et on se fera quand même une pause musicale bien méritée juste après pour respirer. C'est un communiqué du réseau Action Climat France sur la situation actuelle de surcapacité électrique. Un communiqué du 9 avril par lequel le réseau Action Climat alerte contre les réactions égoïstes et court-termistes face à la situation actuelle de surcapacité électrique, qui risque sérieusement de menacer la transition énergétique en soutenant des consommations superflues ou en mettant à l'arrêt le développement des renouvelables. En effet, dans le débat français sur l'électricité, la situation actuelle inquiète, notamment parce que le pays connaît une situation de surcapacité, une production électrique bien plus élevée que la demande. Celle-ci est attribuée à une trop faible augmentation de la demande électrique par rapport à ce qui était prévu. Tandis que les moyens de production électrique renouvelable se déploient, que les centrales nucléaires historiques ont été prolongées et que l'EPR de Flamanville continue, bien que difficilement, sa montée en puissance. Économiquement, une production accrue pousse à la baisse le prix de marché de l'électricité, augmente le nombre d'heures à prix nul, voire négatif dans certaines conditions, et diminue donc la rentabilité intrinsèque des centrales électriques, ce qui se traduit par des pertes de rentabilité ou par l'augmentation du soutien public. En réaction, plusieurs acteurs, dont le Haut Commissaire à l'énergie atomique, HCEA, demandent de freiner grandement le développement des renouvelables, notamment celui du photovoltaïque. Pour le réseau Action Climat, il importe d'interroger les origines de la surcapacité et de tirer profit de la situation en suivant une trajectoire ambitieuse vers la sortie des fossiles. A l'inverse, nous alertons contre les réactions égoïstes et court-termistes qui risquent de menacer la transition énergétique en soutenant des consommations superflues ou en mettant à l'arrêt le déploiement des renouvelables. Pour le réseau Action Climat, ni l'addition déraisonnée de consommation d'électricité ni le ralentissement du développement des renouvelables ne sont des solutions souhaitables pour l'avenir énergétique de la France. Alors, comment mieux réagir face à la surcapacité actuelle ? En somme, il est juste de dire qu'à court terme, l'ajout d'électricité renouvelable réduit les prix de gros moyens de l'énergie. Cela réduit de fait la rentabilité du nucléaire, comme elle diminue celle des renouvelables pour les producteurs d'énergie. Tirer de ce constat la conclusion qu'il faut ralentir l'installation de renouvelables serait faire preuve d'une vision défavorable aux consommateurs, en plus d'être court-termiste, et ultimement préjudiciable à la sortie des énergies fossiles. Doit-on subir la surcapacité comme une crise? Si on adopte uniquement la posture des producteurs d'électricité, a fortiori nucléaire, évidemment oui. Pour eux, les prix nuls ou négatifs, et même les prix bas, sont une mauvaise nouvelle à court terme, tandis que l'augmentation, justifiée ou pas, de la consommation électrique en est une bonne. Mais pour celles et ceux pour qui la défense d'une transition énergétique juste, planifiée et complète est une priorité, la surcapacité est à considérer comme une longueur d'avance et une opportunité à saisir. Avant tout, notons que juguler le déploiement des renouvelables ou ralentir les économies d'énergie irait totalement à l'encontre de l'atteinte des objectifs de décarbonation et de sortie des fossiles. Aucun scénario de décarbonation ne permet de faire l'impasse sur l'électrification d'un grand nombre d'usages et tous constatent que les centrales nucléaires qu'il est possible de construire ne pourront au plus que remplacer le parc existant. Pour être prêt à faire face à l'augmentation de la consommation électrique, l'augmentation de la capacité renouvelable est nécessaire, quitte à assumer une surproduction temporaire. Mieux, cette situation fait baisser les prix et doit encourager l'électrification sans explosion des usages superflus. Il n'est pas possible d'attendre que la demande électrique augmente avant de rattraper les retards de déploiement des renouvelables. Ce retard accumulé conduira uniquement à des importations d'énergie ou au recours à des moyens onéreux et polluants. Toutefois, le réseau Action Climat reconnaît que le photovoltaïque est l'énergie renouvelable dont l'essor est le plus flagrant, ce qui pousse le gouvernement à vouloir le modérer, mais que son développement n'est pas soutenable si c'est la seule énergie à se développer. En effet, l'électricité solaire est disponible seulement en journée, et s'il existe quelques solutions pour la rendre plus constante, avec des panneaux verticaux, des héliostats, elle ne saurait répondre seule à nos besoins. Elle oblige à maintenir en fonctionnement les centrales nucléaires existantes en les poussant à moduler de plus en plus leur production pour produire lorsqu'il n'y a pas de soleil, mais qu'il reste une demande électrique importante. Cependant, le photovoltaïque peut s'inscrire dans un mix de solutions complémentaires, éolien terrestre et en mer, flexibilité de la demande, sobriété et efficacité, interconnexion, stockage, etc., afin d'offrir une production d'électricité plus régulière, capable de mieux répondre à la demande française et européenne. Déployer un tel mix complémentaire permettra de répondre efficacement à la demande électrique, mais aussi d'encourager l'électrification en France et en Europe. Mais si la demande continue au moins temporairement de stagner, déployer un mix complémentaire permet d'anticiper l'arrêt partiel ou complet d'une ou plusieurs centrales nucléaires. Si ce choix n'est pas souhaitable pour les industriels du nucléaire du point de vue du système électrique, il permet d'anticiper l'effet falaise, c'est-à-dire l'arrêt consécutif d'un grand nombre de centrales nucléaires dans un court laps de temps. Notons que cette solution a son intérêt aussi bien dans la perspective d'une sortie complète de la production d'électricité nucléaire, avec un arrêt progressif des réacteurs au fur et à mesure de leur remplacement par des solutions renouvelables complémentaires, que dans la perspective d'un remplacement du parc nucléaire où l'arrêt des réacteurs actuels peut être anticipé, évitant les coupures subies ou simultanées et laissant petit à petit la place aux nouveaux réacteurs. Là, je vais peut-être faire un commentaire quand même, hein, parce que donc le réseau Action Climat ménage un peu la chèvre et le chou. Évidemment, la sortie du nucléaire est un impératif. Après, on peut également, dans ce communiqué, émettre quelques critiques sur le développement du tout électrique. Le tout électrique, vu comme une énergie abondante et renouvelable, a aussi des effets collatéraux, à savoir notamment la consommation de ressources, parce que bien les batteries, ça ne sort pas de nulle part, ça consomme aussi pas mal de matériaux, de métaux rares notamment, et quand bien même une énergie serait abondante, bien sûr, il faut s'interroger sur les usages et en limiter les usages, et la partie économie d'énergie, sobriété est évidemment la partie à mettre la plus en avant, ce que ne fait pas tout à fait ce communiqué. Je ferme la parenthèse et je reprends la conclusion. Le Résurrection Climat nous dit qu'en somme, il faut faire primer l'intérêt des citoyens de l'environnement sur les intérêts particuliers des producteurs d'électricité, ce qui conduit à déployer à un rythme soutenu un mix complémentaire de solutions renouvelables, de flexibilité et d'économie d'énergie, permettant de répondre aux besoins croissants d'électricité. La question des modèles économiques des centrales, aussi bien renouvelables que nucléaires, est une autre question à traiter, mais qui ne doit pas empêcher de penser la transition énergétique dans une perspective systémique et de long terme. Je rajouterai quand même aussi que, bien si on développe le nucléaire, en tout cas si on mobilise des quantités phénoménales d'argent pour poursuivre cette gabegie, hein, puisque on sait que la part du nucléaire, et ça a été rappelé, est en baisse continuelle, et que la programmation qui s'étend sur de très très longues années bien ne suffira pas à compenser cette baisse. Donc c'est certainement pas une énergie d'avenir. Et il n'y a pas à prendre de gants avec le développement du nucléaire. Le nucléaire doit disparaître. C'est beaucoup trop dangereux pour qu'on continue à faire joujou avec. Et surtout ne pas l'oublier, même si dans le débat public, eh bien, cette question est beaucoup moins sensible ou portée qu'avant, bon, grâce à de la désinformation qui est quand même assez flagrante, hein, quand on regarde les données globales. À chaque fois on entend des nouveaux Eldorado, des nouvelles centrales qui poussent comme des champignons. En réalité, il faut des années et des années, et surtout historiquement il y en a beaucoup plus qui ferment que de nouvelles qui se créent. Et comme la consommation d'énergie ne diminue pas, eh bien la part du nucléaire, bien au contraire, la part du nucléaire ne fait elle que diminuer, de mémoire, étant passée de 17% sur le plan mondial à 9% voilà, de la consommation, il me semble, d'électricité, mais il faudrait vérifier, ou de la consommation énergétique, je pense que c'est plutôt d'électricité. En tout cas, le nucléaire n'a aucun avenir. Allez, on s'accorde une courte pause musicale et on se retrouve juste après, toujours sur cette question d'énergie, de gaz à effet de serre. Voilà, sur cette thématique, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 80,4 MHz.
Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont en couleur dans les nids. Mes petits s'écosillent tout son cœur. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures ça rime avec tartine au beurre. Et le soir ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youplala, c'est joli puis c'est pas cher. Je suis content, c'est le printemps, c'est pour moi qu'elle butine. Les abeilles dans le soleil me préparent mes tartines. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures ça rime avec tartine au beurre. Et le soir ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps. Je compte les rossignols. Je suis gâté, c'est congé. Je n'irai pas à l'école. Je suis content, c'est le printemps. Pousse les petits bourgeons dans les prés. Sur mon nez, pousse les petits boutons. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures ça rime avec tartine au beurre. Et le soir ça rime toujours avec espoir. Je suis content dans les temps. Il y a de nouveau des grenouilles. Elles s'enlacent, elles s'embrassent. Il y en a même qui se tripatouillent. Je suis content, c'est le printemps. J'aurai bientôt une petite sœur. C'est maman en chantant qui me l'a dit tout à l'heure. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures ça rime avec tartine au beurre. Et le soir ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et nous venons d'entendre C'est le printemps, interprété par Henri Dess. Voilà. Peut-être des enfants derrière leur poste, hein. En tout cas ce chanteur pour enfin. Henri Dess, nous allons reprendre donc avec bien le sujet des transports, hein, puisqu'on a évoqué les problématiques de surproduction électrique, si on peut le dire, avec ce communiqué du réseau Action Climat France. Alors, sur les questions de transport, quelques données, notamment avec le site Novetic, un article du 28 avril qui nous dit que en 2024, le secteur européen de l'aviation a presque retrouvé ses niveaux d'avant l'épidémie de coronavirus, puisque selon une nouvelle analyse de transport et environnement, il a atteint 96% du nombre de vols et 98% des émissions de CO2 de 2019. L'Agence européenne du contrôle aérien avait prédit pour l'année 2025 que le trafic allait retrouver ses niveaux pré-pandémiques, et c'est chose faite, donc avec cette étude publiée le 28 avril. Les émissions de l'aviation deviennent incontrôlables, a analysé Jérôme Duboucher, qui est responsable aviation chez Transport et Environnement France. Si l'Europe continue sur cette voie, les promesses d'une aviation plus verte resteront une pure fiction, précise-t-il. En 2024, les aéroports européens ont enregistré plus de 8,4 millions de décollages, générant près de 190 millions de tonnes de CO2. À noter que les vols intra-européens, avec plus de 70 millions de tonnes, ont dépassé leur niveau de 2019, puisqu'on était à 67 millions, on est passé à 71, et les voyages extra-européens suivent une trajectoire similaire. Dans l'Hexagone, les émissions de CO2 pour les vols au départ de la France ont augmenté de 4% en 2024 par rapport à l'année précédente. Selon toujours Transport et Environnement, elle représente désormais 93% du niveau pré-Covid, et sans surprise, l'étude montre également que cette trajectoire est due à la croissance du low cost en Europe. Car si les grandes compagnies comme Air France, Lufthansa ou encore British Airways continuent d'être les principaux pollueurs en raison de l'importance de leur flotte, les compagnies low cost sont celles dont les émissions augmentent le plus. Rien qu'en France, leurs vols représentent 19% des émissions de CO2 en plus par rapport à 2019. La compagnie Ryanair arrive d'ailleurs en tête des compagnies aériennes qui ont émis le plus de CO2 en Europe en 2024, avec 16 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 9% de ses émissions entre 2023 et 2024. Face à ce constat, Transport et Environnement appelle l'État français à agir en complément des actions au niveau européen, notamment en définissant un cadre clair pour la décarbonation de son secteur aérien. L'ONG demande donc le gel des projets d'extension aéroportuaire actuellement envisagés à l'aéroport Charles de Gaulle, à Beauvais et à Nice, et le renforcement de la taxe sur les billets d'avion, prérequis pour mieux refléter l'impact climatique de l'avion. Transport et Environnement note également dans son étude que le marché carbone de l'Union européenne, qui contraint les compagnies aériennes à acheter des quotas d'émissions de CO2, ne concerne pas les vols transcontinentaux. Or, ces vols représentent 70% des émissions au départ de l'Europe en 2024. Non seulement le secteur aérien ne respecte pas ses promesses de décarbonation, mais en plus, il ne paye pas le véritable coût de sa dette climatique, déplore Jérôme Duboucher. Ainsi, Transport et Environnement appelle à l'extension des marchés carbone européens et britanniques à tous les vols. D'après leurs calculs, ça aurait pu rapporter 7,5 milliards d'euros supplémentaires aux autorités en 2024. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence sur le financement des infrastructures de transport, lancée donc aujourd'hui 5 mai. L'objectif étant de garantir le financement pluriannuel des infrastructures de transport. On va y revenir. Cette conférence de financement doit se traduire dans un texte législatif contraignant et ambitieux, une demande formulée de longue date par les ONG environnementales, les associations de lutte contre la précarité, les associations de consommateurs, qui ont tenu une conférence de presse, et on y reviendra, hein, puisque c'est le sujet d'après. Sur cette information, on voit que le marché du carbone qui est évoqué, ça marche globalement, généralement pas beaucoup. La taxe aussi, ça reste dérisoire, hein. Ce qui est complètement absurde, c'est la déresponsabilisation. Voyager par avion, c'est tendance. J'ai fait tel pays, on coche les différentes cases, et puis surtout C'est l'ère de la liberté de se mouvoir, hein, bien sûr, alors que une fraction relativement faible de la population prend l'avion et que, encore une fois, ce mode de transport est complètement déraisonnable, hein, bien sûr, et insoutenable sur la planète, hein, au niveau de la pollution et des gaz à effet de serre. Principalement, donc, bien, on ne peut que souscrire à cette interdiction d'extension des aéroports et, bien sûr, et même au-delà de ça, la suppression massive de vols, de la publicité pour l'aviation, voilà, toutes ces ressources finalement sont à mobiliser. Pour infléchir les choses, et quand on sait que le kérosène n'est même pas taxé, on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors, venons-en justement à cette conférence sur le financement des infrastructures de transport lancée aujourd'hui par le gouvernement autour de la note de position qui a été produite par le réseau Action Climat, l'Union fédérale des consommateurs Que choisir et le Secours catholique Caritas France. Alors, Secours catholique n'est pas la tasse de thé, évidemment, de Radio Libertaire, mais pour autant, l'objet, en tout cas, l'objet est social. Alors, voilà, après, bien sûr, ça reste le Secours catholique, bien sûr, avec. Des valeurs qui ne sont pas, a priori, celles que l'on porte. Hein. En tout cas, le système caritatif, c'est l'antithèse de l'entraide et de la solidarité, évidemment. La solidarité, c'est développer l'autonomie de tous et non pas un système de bonnes œuvres. Enfin, voilà, je ferme la parenthèse, on ne va pas se crisper sur l'un de ces trois acteurs. Mais au contraire, nous allons lire justement cette note de position qui permet d'aborder des sujets intéressants sur cette conférence. Donc, l'évolution de nos modes de transport s'inscrit dans le temps long et supporte mal le stop and go observé ces dernières années, nous disent ces trois associations. Aussi, nous saluons pleinement cet objectif sous réserve qu'il se traduise dans un texte législatif contraignant, une demande portée par les trois associations de longue date. Le plan vélo, censé être doté de 250 millions d'euros par an, a ainsi failli disparaître dans le projet de loi de finances 2025 et se trouve finalement raboté de 80% malgré un budget relativement modeste pour l'État et des vertus sanitaires et écologiques avérées. Allez, je rajoute un petit supplément qui n'est pas dans cette note de position. En tant que cycliste, je rajouterais le fait que les pouvoirs publics ont encouragé le développement du vélo électrique et en considérant, donc c'était une vision depuis les voitures de fonction, hein, bien sûr, de nos élus, en considérant qu'il n'est pas possible aujourd'hui de faire du vélo sans assistance, ce qui est complètement incroyable quand on considère bien la situation du vélo dans l'immédiate après-guerre ou l'après-deuxième guerre mondiale ou un peu plus avant, dans les années 20, dans les années 30, pas d'assistance électrique et voilà, on ne s'écoutait pas, on se déplaçait comme ça. Et ce qui est d'autant plus aberrant qu'il y a aussi des considérations de santé, à savoir que bien une grande majorité de la population est dans des métiers tertiaires, sédentaires. N'a pas la dépense énergétique ou la dépense physique requise par notamment l'Organisation mondiale de la santé, donc les 20 minutes d'activité par jour. Et voilà, je rajoute ce côté dévoiement sur la politique du vélo. Et je ferme cette parenthèse et je reviens à cette note de position du réseau Action Climat, de Que choisir et du Secours catholique Caritas France. qui nous dit que les investissements dans la rénovation du réseau ferré, condition pour augmenter le nombre de trains en circulation et limiter les retards, demandent une visibilité sur plusieurs années. La conférence de financement est également le moment d'acter des grands arbitrages politiques. Quelles infrastructures à financer en priorité? À quel volume? Quel secteur mis à contribution? Qui bénéficiera des investissements? Les critères conduisant à ces arbitrages doivent être transparents et dessiner un système de transport cohérent d'un point de vue social et écologique. Autrement dit, cette conférence de financement n'est pas seulement le moment de décider de l'avenir des autoroutes après 2034, mais d'abord de définir des choix de société afin de répondre aux besoins de mobilité des citoyens dès aujourd'hui, dans un contexte de fracture sociale et de transition écologique. Les associations, donc trois associations environnementales de lutte contre la précarité et de consommateurs, formulent quatre défis pour que la conférence de financement des transports soit une réussite. Premièrement, acter une vision politique avant la discussion technique. Il est nécessaire de définir des objectifs prioritaires. Le report modal, la viabilité du réseau ferroviaire, la mobilité pour tous, etc., pour pouvoir discuter efficacement des moyens. Alors, on peut être que d'accord, hein, à mon sens, avec le fait qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le saupoudrage financier, mais bien d'avoir une idée claire des orientations et de ce qui est à encourager. Deuxième point, garantir des financements pérennes et fléchés. La conférence doit donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs en sécurisant les financements ambitieux et pluriannuels sans attendre la fin des concessions autoroutières. Troisièmement, il doit aussi réduire les inégalités sociales liées à la mobilité en rendant les modes de transport les plus propres accessibles au plus grand nombre afin de ne pas alourdir la contribution des plus modestes. Et enfin, renforcer la solidarité entre les territoires. Les inégalités territoriales d'accès à la mobilité sont aujourd'hui criantes et cette conférence doit être l'occasion de rétablir un contrat social de la mobilité effectif. Alors, premièrement, sur acter une vision politique avant la discussion technique. Les trois associations nous disent que les transports sont au cœur du quotidien des Français, déterminent leur accès au travail, aux loisirs, à leur famille, à la culture, à la vie sociale. Ça représente aussi 14% du budget consommation des ménages, une heure de leur journée, 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France et 1,4 million d'emplois. Débattre du financement des infrastructures des transports, c'est débattre de l'avenir des mobilités. Cet enjeu ne peut se réduire à des discussions d'experts sur le modèle de financement des infrastructures le plus efficace budgétairement. Il est nécessaire de définir une vision politique qui doit arbitrer de manière claire et transparente le système de transport que nous voulons construire. Celui-ci devra nécessairement répondre à la crise écologique en privilégiant les investissements dans les modes de transport les moins polluants, vélo, train, transport public, qui permettent de faire du report modal depuis la voiture et l'avion. Deuxièmement, aux enjeux sanitaires, avec une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Troisièmement, aux inégalités sociales, en investissant en priorité dans les infrastructures permettant de lutter contre la précarité en matière de déplacement, pour ne laisser personne sur le bord de la route. Et enfin, aux inégalités territoriales, comme évoqué précédemment. La conférence de financement doit faire émerger des arbitrages politiques clairs et transparents sur les priorités d'investissement et les bénéfices attendus, sur les acteurs qui vont être mis davantage à contribution et sur les critères ayant amené à ces arbitrages. Rien que sur ce sujet-là, il y a de quoi être inquiet. Hein, quand on pense à la technocratie, bien sûr, ce ne sont pas des sujets généralement abordés. On fonce tête baissée dans les solutions, entre guillemets, de financement. Deuxième grand sujet sur les quatre, identifier, garantir des financements pérennes et fléchés. Investir dans notre système de transport nécessite des financements résilients qui s'inscrivent dans le temps long, à l'inverse des tergiversations récentes. Donc notamment, on l'avait évoqué, le plan vélo qui est réduit de 80% cette année, les aides à l'achat de véhicules électriques qui sont divisées par deux, le fonds vert essentiel aux investissements des collectivités pour la mobilité qui a été amputé de 1,35 milliard d'euros. Sur le ferroviaire, 100 milliards d'euros supplémentaires ont été promis d'ici 2040, sans traduction budgétaire à ce stade. Pourtant, la rénovation d'un réseau vieillissant nécessite au moins 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an à partir de 2028, selon SNCF Réseau, afin de maintenir une bonne qualité de service sur le réseau structurant. La rénovation des petites lignes coûterait 700 millions d'euros supplémentaires par an et le redéploiement des trains de nuit, 150 millions d'euros de plus chaque année. Même en imaginant qu'une partie des recettes liées aux autoroutes puisse être fléchée vers le ferroviaire à partir de 2032, il est indispensable de trouver des nouvelles sources de financement dès 2028 afin de permettre à SNCF Réseau de planifier les travaux indispensables entre 2028 et 2032. Ces nouvelles recettes sont à trouver en priorité auprès des modes de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre, le fret routier, le transport aérien et, par exemple, en question catégorie bagnole lourde et inutilement démesurée au regard du poids des personnes à transporter, on peut penser aux SUV. En outre, de nombreux projets de mobilité à l'échelon local et en particulier dans les territoires ruraux sont le fruit d'expérimentations sur 2 ou 3 ans, financées par appel à manifestation d'intérêt ou par appel à projet, rarement pérennisées une fois arrivées à échéance. Cette incertitude nuit à l'efficacité des acteurs des transports, que ce soit les collectivités territoriales, les gestionnaires de réseaux, les opérateurs de transport ou les citoyens eux-mêmes. Elle nuit également à la cohérence globale des politiques menées aux différents échelons de gouvernance. Enfin, elle l'empêche de penser le long terme et réduit souvent l'action publique à des mesures conjoncturelles qui ne permettent pas d'accélérer la nécessaire évolution structurelle de notre système de transport. Une partie plus importante des différentes recettes des transports doit également être orientée vers le secteur lui-même. Il s'agit d'un levier indispensable pour garantir une meilleure transparence et une acceptabilité des différentes taxes et redevances et sécuriser les financements pour les transports. La conférence de financement doit donc s'inscrire dans une vision planifiée de l'avenir du système de transport et acter des financements pluriannuels sécurisés. Troisième grand point d'attention sur les 4, réduire les inégalités d'accès à la mobilité. 15 millions de personnes en France sont aujourd'hui en situation de précarité sur les questions de mobilité, en raison notamment de l'allongement des distances entre le domicile et le lieu de travail, des prix du carburant et de la dépendance à la voiture. Dans les territoires périurbains, seulement 21% des Français déclarent avoir le choix de leur mode de transport et 85% utilisent leur voiture comme mode de transport principal. La situation est similaire dans les communes peu denses, mais s'inverse totalement pour les habitants des centres-villes des grandes métropoles, puisque près de 80% de ces derniers déclarent avoir le choix de leur mode de transport. Les inégalités de transport recouvrent largement les inégalités sociales. Les impacts sur la santé liés à la qualité de l'air touchent particulièrement les populations les plus vulnérables en raison de leur proximité avec le trafic routier et un moins bon accès aux services de santé. Le transport aérien continue de jouir d'exonérations fiscales anachroniques. Pas de taxes sur le kérosène, TVA à 0% sur les vols internationaux, qui contribuent au sentiment d'injustice de nombreux citoyens et citoyennes. Il n'est pas normal que la fiscalité du kérosène soit inférieure à celle des carburants automobiles, alors même que l'avion est peu utilisé par les Français les plus modestes. Au moment d'arbitrer les choix d'investissement qui vont façonner l'évolution de notre système de transport, il est donc absolument essentiel d'avoir pour objectif de réduire ces inégalités. Ce qui implique de développer des alternatives à la voiture en ciblant en priorité les territoires en panne de mobilité, d'en améliorer l'accès et de repenser également les politiques d'aménagement du territoire pour réduire les distances contraintes du quotidien. Et enfin, dernier point, renforcer la solidarité entre les territoires. Force est de constater donc que certains territoires concentrent la plupart des investissements alors que d'autres sont de plus en plus laissés à l'abandon. En effet, le financement des autorités organisatrices de la mobilité, que ce soit au niveau régional ou intercommunal, repose en grande partie sur le versement mobilité qui dépend de la masse salariale des employeurs publics et privés de plus de 11 salariés. D'un côté, ça peut enclencher un cercle vertueux. Un territoire peut en effet investir dans des projets de mobilité, attirer davantage d'entreprises qui elles-mêmes pourront contribuer au versement mobilité, ce qui permettra de dégager de nouvelles capacités d'investissement et ainsi de suite. Mais de l'autre, au contraire, de nombreux territoires se retrouvent en panne de mobilité, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'entreprise de plus de 11 salariés, soit parce que le versement mobilité ne peut être levé qu'à condition de fournir un service régulier de transport public de personnes. Or, faute de financement, justement, ou faute de flux, de nombreux territoires, souvent ruraux, se retrouvent prisonniers d'un cercle vicieux. Il est impératif de réduire les écarts d'accès à la mobilité entre les territoires en rééquilibrant les capacités de financement des collectivités. Un meilleur maillage territorial est également nécessaire au niveau du transport ferroviaire. Les petites lignes souffrent de la concurrence avec la route et d'un sous-investissement depuis des années, ce qui fait planer le risque de nouvelles fermetures. Quant aux trains de nuit, ils permettent de desservir des villes intermédiaires enclavées par exemple Briançon, Rodez, et ou désertés par le TGV, par exemple Carcassonne, Cahors, etc. Avec un investissement de l'État dans les nouveaux trains, il sera ainsi possible de relier directement Narbonne à Colmar ou Quimper à Chambéry sans passer par Paris. La conférence de financement doit permettre une meilleure péréquation du financement de la mobilité entre les différents territoires. Et enfin, dernière question en conclusion, que faire dans un contexte budgétaire contraint ? Donc les trois associations proposent à court terme, dans un moment où l'argent public manque, d'appliquer trois principes. Premièrement, de privilégier l'existant sur le neuf, ce qui est moins coûteux et plus écologique. La France est le pays avec le plus de grands projets ferroviaires qui se chiffrent en milliards d'euros, le Paris-Turin, le GPSO, etc. Dans un budget contraint, cet argent serait plus prioritaire encore dans la rénovation du réseau ferré qui a souffert en France d'un sous-investissement chronique. Dit autrement et à choisir, mieux vaut plus de TER et à l'heure que gagner une heure sur le Paris-Toulouse. Deuxièmement, générer de nouvelles recettes en priorité auprès des modes de transport les plus polluants, aériens, fret routier, SUV. Ces rentrées fiscales permettraient non seulement de sécuriser les investissements dans les alternatives, mais de dissuader l'usage de ces modes de transport en jouant sur le prix. Il est ainsi incompréhensible que les billets d'avion soient moins chers que les billets de train pour voyager en Europe, ou que les camions sur les routes ne soient pas mis à contribution plus fortement, alors que leur poids est la principale raison de l'usure des routes. Et enfin, sortir les investissements climat du calcul de la dette. Toutes les dettes ne se valent pas. Un manque d'investissement dans nos transports risque de se traduire par un coût croissant pour la société, à la fois économique, sanitaire, social et environnemental. À ce titre, dégager de nouvelles capacités de financement pour les transports de demain se justifie, y compris dans un budget contraint. Ce qui serait irresponsable, c'est de laisser le réseau ferroviaire continuer de se détériorer, les mobilités actives végéter, le coût de la mobilité augmenter pour les plus modestes et les émissions de gaz à effet de serre stagner. Voilà pour cette information un peu complète sur le sujet. On se fait une dernière pause musicale, une pause qui devra être courte. Allez, puisqu'on parlait de ferré, on va se tirer un peu les choses par les cheveux et écouter du Léo Ferré. Vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile les jours de grand vent. Dans ses cheveux blancs, nous aurons la dans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne alors, vienne là, je dors. »
Voilà, avec Léo Ferré, nous avons rêvé à l'âge d'or. Vous êtes sur Radio Liberté à 89,4 MHz, l'émission Les Mangeux de Terre dans ces 10 dernières minutes. Allez, avec un petit communiqué de Greenpeace et du réseau Sortir du Nucléaire qui saisissent le tribunal administratif contre le refus de prendre en compte la centrale nucléaire de Gravelines dans le plan de prévention des risques littoraux. Et ça, ça a été fait le 4 décembre dernier auprès des préfets du Nord et du Pas-de-Calais, et en l'absence de réponse, donc dans le délai légal de 2 mois, les ONG ont saisi le tribunal administratif de Lille, nous disent-elles dans un communiqué du 10 avril, pour mettre Étienne Mascré, donc avocat des organisations requérantes, les centrales nucléaires ne sont pas exclues du champ d'application des plans de prévention des risques littoraux. L'État aurait donc dû réaliser une analyse du risque, puisque, alors j'aurais dû commencer par ça, hein, le plan actuel validé par les autorités exclut la centrale nucléaire de son périmètre. C'est un site où EDF ambitionne d'implanter 2 nouveaux réacteurs EPR2, malgré les risques de submersion marine et qui en plus se fondent sur des données climatiques obsolètes. Et donc l'avocat dit que ce plan de prévention des risques du littoral est un outil destiné à assurer la sécurité des populations face aux risques de submersion marine, sensiblement aggravés par le changement climatique. Il est donc indispensable qu'il repose sur des données scientifiques actuelles, et l'utilisation en plus donc de données obsolètes dès l'origine par ses auteurs rend ce plan de prévention des risques illégal. Pour Pauline Boyer, qui est chargée de campagne Transition énergétique à Greenpeace France, le fait que la centrale nucléaire soit exclue du plan de prévention des risques littoraux avec la mention qu'elle ne serait pas soumise au risque de submersion interroge. Des digues ont été construites autour de la centrale justement parce qu'elle est construite dans une zone à risque de submersion et d'inondation. L'invisibilisation de ces dangers nuit à l'information des habitants consultés dans le cadre de l'élaboration de ce plan de prévention, qui sont en première ligne des risques concernant la centrale nucléaire. Pour Manon Rivet, chargée des relations médias et du plaidoyer du réseau Sortir du Nucléaire, le gouvernement et EDF entendent imposer à la population leur projet de construction de réacteur EPR2 en dépit des risques induits par le réchauffement climatique. En ce qui concerne le site de Gravelines, le plan de prévention des risques du littoral approuvé par l'État n'a pas tenu compte des plus récentes connaissances scientifiques disponibles sur le sujet. Elle nous alerte pourtant sur une augmentation du niveau de la mer qui pourrait induire un risque de submersion du site de Gravelines. Le gouvernement doit stopper ces projets hors sol et dangereux. Pour ce recours, il sera à suivre. Et puis, sur l'électricité, avec Reporter, toujours du 10 avril, qui nous dit que tout simplement les data centers, donc les centres de gestion de données informatiques, consommeront autant d'électricité que le Japon en 2030. Je vais peut-être terminer un sujet, un petit sujet aussi sur ce qu'on peut appeler la décroissance. Hein. Alors c'est un sujet de chaussures sur le bonus réparation. Reporter nous dit dans du reporter du 16 avril que les cordonniers sont en colère puisque François Bayrou, le 15 avril, le Premier ministre, donc, a tenu un discours sur les finances publiques en pointant du doigt le bonus réparation pour les vêtements et chaussures qui avait été lancé en novembre 2023. Donc il a déclaré « Je ne veux faire de peine à personne, mais annoncer qu'on va donner une prime pour aller porter ses chaussures chez le cordonnier. Il y a de nombreux citoyens qui pensent que ce n'était peut-être pas l'urgence absolue. Tout le monde a le sentiment qu'on a annoncé beaucoup de dépenses sans tenir compte de la situation du pays. » Dans une lettre ouverte publiée le 16 avril, la Fédération française de la cordonnerie multiservice exprime son profond désaccord. Le bonus réparation, loin d'être une dépense superflue, est une réponse concrète aux accords de Paris et s'inscrit pleinement dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Initié en 2020 dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ce dispositif vise à encourager la réparation plutôt que le remplacement des produits, insiste donc son président Jean-Pierre Vernot. Financé par une éco-participation des entreprises de la filière textile et chaussures soumises au principe de la responsabilité élargie du producteur, ce dispositif permet aux consommateurs de bénéficier d'une réduction immédiate sur la réparation de chaussures ou de vêtements entre 8 et 25 euros selon les cas. Depuis son lancement, le bonus réparation a rencontré un réel engouement avec plus de 800 000 réparations effectuées lors de la première année et plus de 1 500 artisans labellisés. Le bonus réparation n'est pas une dépense superflue, mais une nécessité pour l'avenir, assure donc la Fédération française de la cordonnerie multiservice. En réparant nos chaussures et nos vêtements, nous réduisons notre empreinte carbone et les montagnes de déchets qui s'accumulent chaque année. Alors, certes, il y a une plaidoirie, on plaide pour son activité, mais effectivement, sur le fond, là, on est bien dans la réparabilité des objets, quelque chose qui doit être absolument encouragé dans le contexte actuel. Et on a cet exemple lorsqu'il s'agit de rire de ce qui n'est pas important. Ben on prend souvent des exemples liés aux enjeux écologistes. On termine sur ce mini-sujet. L'émission touche à sa fin. La prochaine aura lieu le premier lundi du mois, donc je pense que le calcul est facile à faire, puisque l'émission a lieu depuis 21 ans maintenant, peut-être un peu moins, puisqu'au début on faisait ça... Dans mon souvenir, c'était le lundi midi, mais depuis très longtemps, donc elle a lieu le lundi à 18h, le premier lundi du mois. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire sur la plus rebelle des radios, 89,4 MHz. Allez, on se quitte avec un titre court et explosif, signé Les Shérifs. Allez, à bientôt.